voilà, j'installe le matériel. Voilà. Bonjour à tous. Je souhaite tout d'abord la bienvenue aux experts étrangers qui nous viennent aujourd'hui des Pays-Bas, du Canada et de Suisse. Je suis certaine qu'ils vont nous apporter des enseignements vraiment très intéressants et qu'ils vont permettre aujourd'hui des débats très riches. Alors, comment va se dérouler la matinée ? La matinée va... Durant la matinée vont se succéder trois interventions. Je vais moi-même d'abord prendre la parole. Exaldan tour tlaten an de heer Tschuni, die in het Nederlands zal spreken. Je donnerai ensuite la parole à Monsieur Pizzuto, qui parlera en anglais, et ensuite à Monsieur Voucher, qui réinterviendra en français, mais vous bénéficiez évidemment toujours de la possibilité d'une traduction simultanée. Alors, en ce qui me concerne, j'ai le plaisir d'introduire la journée en tentant de donner un aperçu qui sera très synthétique d'une situation qui est pourtant complexe au niveau de la production des statistiques pénales en Belgique. Et d'autre part, je vais tenter aussi d'esquisser quelques nouvelles perspectives qui sont aujourd'hui projetées. Comme M. Lemens vous le rappelait, dans sa déclaration politique de 2009, le ministre de la Justice, Joe van Deursen, constatait le besoin de disposer de statistiques pour mener une politique evidence-based. Il reconnaissait par là combien il est effectivement important pour mener une bonne politique de pouvoir aussi l'asseoir sur l'analyse d'informations chiffrées objective relative au flux d'affaires et de personnes à travers le système de justice pénale. Ainsi formulée, l'intention du ministre vise clairement une forme d'intégration ou d'articulation des données statistiques telles qu'elles existent actuellement. Les scientifiques, mais je pense pouvoir aussi parler au nom des professionnels qui sont concernés par le fonctionnement de la justice pénale, ne peuvent évidemment que se réjouir des intentions qui sont ainsi formulées dans cette déclaration et qui se trouvent ainsi mises à l'agenda politique pour la première fois, je pense, aussi clairement. Ces intentions résonnent en fait comme un écho déjà très lointain un projet de recherche lancé il y a maintenant près de 25 ans, conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, et qui à l'époque avait été développé par trois universités, la Catholic Universiteit Leuven, l'Université catholique de Louvain et la Vrije Universiteit Bruxelles. Ce projet avait alors pour objectif de poser les bases d'une statistique criminelle intégrée et soulignait déjà alors combien l'existence de statistiques performantes est importante, et ceci pour trois raisons principalement. D'abord, comme indicateur du volume de travail et des affaires traitées par les différents services de la justice pénale, un objectif opérationnel donc. Ensuite, pour nous éclairer sur le fonctionnement de l'appareil de justice et donc pour en permettre l'évaluation. Je cite une formule utilisée dans ce projet. « Grâce à cette transparence, y lit-on, le fonctionnement effectif du droit doit pouvoir être mis à l'épreuve de ses propres intentions de principe. » Enfin, pour remplir la fonction particulièrement importante dans une démocratie, cette fonction d'accountability. C'est une notion qui est très difficile à traduire en français comme en néerlandais d'ailleurs, mais qui renvoie globalement au devoir qui incombe aux instances publiques de rendre des comptes et de justifier l'exercice de des tâches qui leur sont confiées. Le choix de cette enceinte, la maison des parlementaires, pour le colloque d'aujourd'hui, n'est donc pas tout à fait neutre. Le Parlement, et en définitive le citoyen, est en droit d'être informé d'une façon correcte sur la nature, sur la qualité et les effets de l'application de la loi. Alors, très concrètement, le ministre a concrétisé ses intentions en confiant à l'INCC une mission spécifique en vue du regroupement et de l'articulation des différentes bases de données existantes relatives aux différents niveaux et secteurs de la justice pénale. Alors, la mission demande dans un premier temps une étude exploratoire, travail que nous démarrons actuellement. Donc, l'implication de l'INCC dans l'organisation de ce colloque s'inscrit donc directement dans l'attribution de cette nouvelle mission. Mais il paraissait aussi évident que ce projet qui concerne directement la production de statistiques pénales et le projet INSTAP, auquel l'après-midi sera consacré et qui concerne quant à lui la diffusion de statistiques pénales, il paraissait évident que ces deux projets devaient être étroitement coordonnés. L'organisation d'une seule journée abordant les deux volets nous a donc paru être le choix le plus pertinent. Dans ma propre contribution, je vais tenter d'abord de dresser un état de la situation des statistiques pénales belges par rapport à l'objectif d'intégration tel qu'il a été déjà théoriquement défini il y a plus de 20 ans. Alors, cet état de la question sera vraiment très synthétique, certainement pas exhaustif, et il frustrera certainement les services producteurs de données qui sont aujourd'hui présents. Il les frustrera de par la concision de mes propos, mais surtout parce que je vais passer malheureusement sous silence l'immense et l'excellent travail qui a déjà été réalisé pour plutôt aujourd'hui mettre l'accent sur les lacunes qui doivent encore être comblés. J'espère qu'ils voudront bien m'en excuser, mais mon objectif aujourd'hui, c'est bien de tenter une vue d'ensemble et de fournir ainsi un point de départ à la réflexion future à laquelle, évidemment, tous les services seront étroitement associés. Je vais ensuite, tout aussi brièvement, tenter d'identifier les points d'achoppement, de Knellpunkten, auxquels on se bute quand on poursuit effectivement une perspective d'intégration des données, point d'achoppement qu'il faudra bien sûr ensemble s'atteler à résoudre. De quoi parle-t-on tout d'abord quand on parle d'intégration ? Le projet de recherche qui a donné corps à l'idée de statistique criminelle avait défini à l'époque 4 niveaux d'intégration. Alors, pour certains d'entre vous, je pense que c'est un refrain qui est déjà bien connu, mais il n'est pas inutile de rappeler les principes essentiels. Premier niveau d'intégration, l'intégration interne. Alors, que vise l'intégration interne ? Elle vise à assurer qu'au sein d'une même instance, un parquet, par exemple, ça peut être une prison ou une maison de justice, on applique des définitions cohérentes et pertinentes pour les catégories statistiques, qu'on élimine des doubles comptages, qu'on opère un travail d'uniformisation interne. En d'autres termes, par l'intégration interne, ce qui est visé, c'est d'être bien au clair avec ce que l'on compte et comment on le compte, pour que la mesure statistique ait du sens par rapport à ce que l'on souhaite effectivement compter. La deuxième dimension, l'intégration horizontale, consiste à prendre en considération au sein de chaque phase spécifique du système de justice pénale les différents services qui traitent de données de même nature et de faire en sorte que l'on applique une méthodologie commune de collecte, d'enregistrement et de traitement des données statistiques. On vise donc par là l'uniformisation des pratiques statistiques entre, par exemple, les différents parquets, les différentes maisons de justice, les différentes prisons ou encore les différents services de police. Troisième dimension de l'intégration, l'intégration verticale. Alors, cette dimension est sans doute la plus originale et la plus exigeante du projet. Il ne s'agit plus cette fois seulement d'intégrer les informations phase par phase, mais bien de chercher à articuler entre elles des données relatives aux étapes successives du processus pénal. Il s'agit donc de reconstruire l'unité des données pour qu'elles permettent de suivre la trajectoire, le devenir des personnes ou des affaires à travers l'ensemble du système. Donc, seule cette dimension de l'intégration peut nous permettre, par exemple, de savoir comment le système, dans son ensemble, traite un certain type d'affaires. Je prends un exemple au hasard, comment le système traite les violences conjugales, par exemple, ou comment il traite un certain type de population, la population étrangère, par exemple. Seule cette dimension de l'intégration permet aussi d'avoir une vue sur les retours dans le système d'une même personne. On vise par là, par exemple, la question de la récidive. Quatrième dimension, l'intégration contextuelle. Alors, cette dimension de l'intégration, elle vise plus spécifiquement à resituer les données qui sont relatives au fonctionnement de la justice pénale dans un contexte beaucoup plus global, en leur donnant aussi ainsi une plus juste signification et pour ouvrir à des interprétations plus pertinentes. On vise par là, par exemple, le recours à des données démographiques, à des données sur les effectifs et les moyens des services, mais aussi à des données socio-économiques ou à des informations plus qualitatives relatives soit aux activités criminelles, soit aux services qui sont chargés d'y réagir. Quel est 20 ans plus tard l'état de la situation par rapport à ce projet dans son ensemble et par rapport ensuite à ce quadruple objectif d'intégration? Sans entrer dans le détail historique des suites de ce projet de recherche, il faut néanmoins souligner qu'il a très largement inspiré des initiatives qui ont été prises progressivement, tant dans la sphère des compétences du ministère de l'Intérieur que dans celle du ministre de la Justice. Au contraire de nombreux pays, la Belgique se caractérise par des statistiques policières qui sont très récentes. Les premières statistiques policières, alors appelées statistiques de criminalité policière interpolicière intégrée, portent sur l'année 1994 et elles ont de surcroît connu depuis des bouleversements importants avec la réforme des polices en l'an 2000. Avec cette réforme, on a effectivement assisté à la mise en œuvre progressive de la Banque de données nationale générale, la BNG, celle-ci devant servir à des fins tant opérationnelles que statistiques. Du côté du ministère de la Justice, la statistique est réinvestie au début des années 90 avec une volonté de remédier aux carences qui étaient observées antérieurement au niveau des statistiques judiciaires qui étaient jusqu'alors publiées par l'Institut national de statistique. Le premier champ qui est investi est celui des statistiques de condamnation. Le point d'appui statistique qui est alors intégré dans le service de la politique criminelle reçoit en, en 1994 pour mission première la refonte des statistiques de condamnation qui étaient produites à partir des données du casier judiciaire. La première publication de ces statistiques porte sur l'année 1993. Excusez-moi, la date concerne la première production statistique et pas la création du service. Ce sont ensuite les statistiques des parquets correctionnels qui ont été investis grâce à l'engagement en fin 1999 d'analystes statistiques auprès du Collège des procureurs généraux et des parquets généraux. Les premiers tableaux publiés portent sur l'année 2002 et des statistiques sont depuis publiées régulièrement. Le constat d'un vide statistique depuis 1989 en matière de délinquance juvénile et de protection de la jeunesse a amené le ministre de la Justice de l'époque à confier en 2003 une mission de recherche à l'INCC relative cette fois à la production de données statistiques en cette matière. Des premières données statistiques ont été diffusées en matière de protection de la jeunesse portant sur l'année 2005 et l'analyse de nouvelles données de 2006 à 2008 est actuellement en cours. Le développement d'un outil informatique, l'outil informatique CIPAR, dans la structure relativement récente, 1999, des maisons de justice, a conduit aussi l'INCC à proposer au ministre de la Justice de l'époque de développer un projet visant à exploiter à des fins statistiques et de recherche scientifique les informations nouvellement enregistrées dans ce système qui était initialement conçu pour répondre essentiellement à des besoins administratifs et gestionnaires. Là aussi, le travail est en cours. Les analyses ont porté jusqu'à présent sur les années 2005, 2006 et 2007. Au moment d'envisager la création des tribunaux de l'application des peines, l'INCC a à nouveau été sollicité en mai 2004 pour contribuer à l'élaboration d'un instrument d'enregistrement propre aux futurs tribunaux d'application. Ce système dénommé SURTAP, la conception de ce système est encore aujourd'hui en cours. Enfin, je n'oublie pas, bien sûr, les statistiques pénitentiaires. Lorsqu'on considère le système de justice pénale dans son ensemble, le secteur pénitentiaire est bien celui où la constitution de bases de données informatisées est la plus ancienne. Depuis 1974 déjà, on dispose de bases de données. C'est donc également le secteur où les bases de données sont les plus éprouvées. Mais là aussi, un nouveau projet est en cours qui a été initié en 2004 par l'INCC et qui vise la production routinière systématisée de statistiques via un data warehouse qui est développé directement en collaboration avec la Direction générale des établissements pénitentiaires et le service ICT d'informatisation du SPF Justice. Alors, je n'aurai pas le temps d'examiner les lacunes spécifiques à chaque base de données et production statistique particulière. Je vais donc le faire très rapidement sous la forme d'un bilan global en renvoyant à l'un ou l'autre exemple plus parlant. Alors, très grossièrement, on peut constater des avancées vraiment essentielles pour ce qui concerne l'intégration interne dans la production statistique. Toutefois, il faut quand même un peu déchanter parce que des lacunes importantes doivent encore aussi être constatées. Alors, je relèverai tout d'abord que des secteurs entiers ne sont pas encore couverts. Je ne prendrai qu'un exemple. Par exemple, au niveau des parquets, l'activité des parquets en matière d'exécution des peines n'est pas encore couverte. Je soulignerai ensuite que l'unité de compte personne est encore très souvent négligée dans la production statistique. C'est le cas dans les statistiques policières, qui jusqu'à présent ne rendent compte que de chiffres de PV, mais pas de chiffres d'auteurs suspectés et encore moins de victimes. C'est aussi le cas dans les statistiques des parquets, qui souffre aussi quant à elle, en plus d'une limite importante, qui résulte de mesures prises pour préserver l'anonymat des données et le respect de la vie privée. En effet, seule l'année de naissance et non la date de naissance complète est communiquée dans la base de données des analystes statistiques, ce qui empêche donc, par exemple, le calcul précis de l'âge des suspects. Ça pose évidemment problème aussi dans une perspective d'intégration verticale pour suivre le flux des personnes à travers le système. Un troisième problème important qui doit être relevé, c'est lorsque des statistiques sont produites à partir directement de bases de données opérationnelles dans lesquelles on introduit en continu l'information et dans lesquelles donc on continue toujours à compter. Les chiffres statistiques ne sont alors pas stables et dépendent du moment où l'on interroge la base de données. C'est le cas de la base de données policière, dans une moindre mesure encore de la base de données pénitentiaire. Cette façon de procéder, qui a évidemment un sens par rapport à un objectif opérationnel, rend très problématique l'analyse en termes de tendance. Or, cette analyse en termes de tendance est très utile pour les besoins de la politique criminelle. Enfin, dernier point que je souleverai pour l'intégration interne, c'est le retard qui est pris par la production de certaines statistiques. Je pense cette fois-ci plus particulièrement à la statistique des condamnations, dont la dernière année couverte est actuellement l'année 2003, c'est déjà loin, et ce qui pose aussi la question de la source de l'information qui serait la plus adéquate pour fournir l'information statistique. Dans ce cas, effectivement, les personnes en charge de la production statistique ont souligné à plusieurs reprises que la production de ces statistiques se base à l'heure actuelle sur un double travail d'encodage, une fois par les employés des greffes et une seconde fois par les employés du casier judiciaire central. Donc, outre le fait que ce travail d'encodage retarde d'autant la production, il est également à l'origine de nombreux problèmes de codification et d'erreurs de saisie. L'intégration horizontale a aussi fait l'objet de progrès très importants, mais aussi très variables selon les secteurs. Certains choix mériteraient par exemple d'être interrogés. J'évoquerai mais très rapidement l'option qui a été prise dans les chiffres publiés par les parquets d'inclure à chaque fois pour chaque arrondissement les affaires qui sont transmises d'un parquet à l'autre pour des raisons de compétences. Cette option a en effet pour résultat que d'un point de vue global, on comptabilise deux fois ou voire plusieurs fois des affaires qui sont soumises au ministère public